tout de suite, les infos. Les infos.
Tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Procès Thomas Sankara, le général Gilbert Djingéré est toujours là-bas ce matin. C'est phrase choc dans un instant avec notre envoyé spécial. Insécurité au Burkina, l'opposition annonce des manifestations pour exiger la démission du président du Faso si les choses ne changent pas d'ici les jours à venir. Insécurité toujours, l'appel à une journée ville morte lancée par Ugulmo Fim dans la région de l'Est est suivi. Blaise Compaoré peut-il encore aider la stabilité du pays en prenant attache avec les leaders terroristes qui étaient hébergés à Ouagadougou en son temps? Non, répond son ancien Premier ministre Lucas Dov Tiao, il est notre invité. Bonjour et bienvenue à cette édition. Le procès Thomas Sankara se poursuit avec le général Gilbert Djingéré à la barre toujours. Rappelons que hier, le lieutenant à l'époque des faits a plaidé non coupable. Il est poursuivi pour attente à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins. Abdoul Fattah Tiamtouré est notre envoyé spécial à ce procès. Bonjour Abdoul Fattah.
Bonjour Denis et bonjour Oméga.
Alors, quelles sont les nouvelles informations en lien avec le passage du général Djingéré ce matin là-bas?
Eh bien, Denis, l'interrogatoire se poursuit avec le général Gilbert Djingéré devant les juges. Il est interrogé par les avocats des partis civils ce matin, notamment ceux de la famille Sankara, des avocats qui s'étonnent que tous les témoins potentiels du général soient morts ou en fuite. Msoni Nabié, Azuma Otis Ouedraogo, de la garde de Blaise Compaoré à l'époque, Karim Tapsoba, régisseur de la Mako, qui aurait fait enlever les corps par des prisonniers, le chef de l'Étire à l'époque, une unité de l'armée basée à Cambouincin au nord de Ouagadougou à l'époque, le commandant Lengani, commandant en chef des armées, tous sont morts. Yassine Kafando et Blaise Compaoré, eux, sont en fuite. Ce sont pourtant les noms qui reviennent dans le récit du général Gilbert Djingéré. Pour maître Olivier Lalogo, ça ressemble à une stratégie savamment ficelée pour simplement se défendre. Le général Gilbert Djingéré, qui dit avoir entendu des tirs alors qu'il était à l'ENAM pour le sport, il n'arrive pas non plus à se souvenir qui il a pu voir ce jour-là sur le chemin ou en tout cas sur place à l'ENAM, sur le terrain de sport, où il reconnaît donc qu'il y avait du monde sur le terrain donc de sport ce jour-là, le jeudi étant réservé justement au sport de masse. Pour maître Prosper Farama, c'est quand même étonnant. Vous n'avez personne qui vous aurait vu en dehors du Conseil de l'Entente au moment des tirs, alors que l'avocat le lui rappelle. Plusieurs témoins, en tout cas, disent avoir vu le général sur donc le site du Conseil de l'Entente ce jour-là, au moment où ça tirait. Maître Prosper Farama qui lance même un appel public à témoins que toute personne qui aurait aperçu le général le jour-là, ce jour-là sur la route ou à l'intérieur de l'ENAM en train de faire du sport, vienne aider à la manifestation de la vérité. C'est ce qu'il a souhaité. Et je vous raconte aussi cet échange-là qu'il y a eu entre le général Gilbert Djingéré et l'un des autres avocats des partis civils, maître Ferdinand Zepa notamment, qui a invité le général à une discussion, à un entretien convivial. Et pour lui, il a entendu parler du général Gilbert Djingéré. On a dit beaucoup de bien du général et que, voilà, au vu de tout ce parcours-là, le général devrait tout simplement assumer cette responsabilité militaire, et je le cite, puisque ces événements se sont déroulés sur le site du Conseil de l'Entente qui était sous son autorité. Mais le général va répondre, vous êtes venu avec une idée arrêtée. Le général Djendjéré, il est dedans, il doit assumer. Mais non, je ne vais pas assumer, a-t-il dit. Le général Gilbert Djendjéré qui poursuit, je sais ce que vous voulez que je dise, mais je ne le dirai pas. Blaise Compaoré ne m'a pas donné mission de faire ça. Je n'ai pas donné mission aux soldats de faire cette connerie-là. Je ne vais pas assumer ce que je n'ai pas fait. Non, non et non, a-t-il martelé. L'audience se poursuit. L'interrogatoire se poursuit. En ce moment, c'est Maître Prosper Farama qui tient le micro et qui assène l'accusé de ces questions.
Merci à vous, Abdoul Fattah Thiem Touré, que nous allons retrouver également tout au long de nos éditions pour d'autres informations en lien avec le passage du général Gilbert Djendjéré à la barre. Le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso a animé une conférence de presse hier. Il s'est agi de faire le point sur la situation de la nation. Au cours de cette rencontre, le CFOP a annoncé des manifestations pour exiger le départ du président du Faso, Roch Kabore, si rien n'est fait d'ici un mois. Il s'agirait d'un dernier avertissement. Des détails avec Régis Bonny.
Si dans un délai d'un mois, rien de sérieux et de concret n'est entré pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement.
Par ces mots, l'opposition politique burkinabé appelle le pouvoir en place à prendre des mesures fortes pour maîtriser la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le chef de file de l'opposition politique déplore une situation de plus en plus inquiétante pour le Burkina Faso et rassure que cet ultimatum n'est pas pour renverser le président Kabore. Eddy Kombouégo.
Notre combat se fera démocratique. Si nous avons donné un délai, c'est parce que nous pensons que nous devons leur donner un dernier avertissement. Et nous avons dit que nous réagirons au bout du mois. Nous avons si rien n'est fait. L'objectif n'est pas d'aller renverser le gouvernement. L'objectif, c'est de ramener la paix au Burkina et de développer le Burkina dans le respect de la Constitution.
L'opposition politique fait remarquer également que le naufrage du pays est inévitable. Eddy Kombouégo, chef de file de l'opposition politique.
Le poisson pourri par la tête du temps, la tête de notre Faso est chroniquement absente. Et quand le navire est sans capitaine, le naufrage est inévitable. Nous demandons à tous les patriotes et sincères de se tenir prêts pour les prochaines actions en vue de sauver notre navire en perdition et léguer une terre complète à nos enfants. Nous avons hérité d'un Burkina entier et nous devons le transmettre entier à nos descendants.
Le CFOP appelle donc le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la situation sécuritaire du pays des hommes intègres s'améliore et que la paix revienne au Faso.
En attendant les manifestations prochaines de l'opposition, la ville de Fada est une ville morte aujourd'hui. Le mouvement Ugulmoufi a en effet appelé à une journée ville morte dans la région de l'Est, un appel qui est suivi dans la ville de Fada où les lieux de commerce sont restés à majorité fermés. Un rassemblement est en cours. Le mot d'ordre aurait été suivi également à Bougandé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, l'association alternative de veille citoyenne, acteur économique pour le développement de la patrie, apporte son soutien au gouvernement. Elle aussi a tenu une conférence de presse hier à Ouagadougou. Jean-Paul Ouidraogo avec la voix de Yacouba Wilio pour le reportage.
Selon l'association alternative de veille citoyenne, acteur économique pour le développement de la patrie, la guerre que le Burkina subit est l'œuvre des ennemis qui veulent mettre en échec sa démocratie et mettre en cause son indépendance. Saïbou Kwanda, président de l'alternative de veille citoyenne, acteur économique pour le développement de la patrie.
Notre pays traverse depuis 6 ans une guerre injustifiée. Cette guerre lâche et barbare a pour corollaire le déplacement de plus d'un million de personnes appelées déplacées internes et la multiplication d'actes terroristes avec pour cible nos FDS, nos VDP et civils sous l'œil passif de la communauté dite internationale et des forces amies présentes sur notre territoire.
Selon l'alternative de veille citoyenne, la situation sécuritaire est étroitement liée à la situation économique du pays et pour une sortie de crise, elle a sa petite idée. Saïbou Kwanda.
Nous demandons la mobilisation générale pour vaincre le terrorisme. Nous demandons au président du Faso de placer des hommes de qualité et patriotes dans nos ministères pour l'aider à la relance économique et vaincre la vie chère et le terrorisme. Nous demandons une communication de guerre active. Nous demandons l'ouverture des frontières terrestres pour faciliter la bonne circulation des personnes et des biens. Nous appelons tous les absorbeurs de pouvoir qui prétendent avoir des solutions sécuritaires à la région de la République. Nous demandons à la population de s'impliquer véritablement dans la lutte contre le terrorisme afin de sauvegarder notre indépendance.
En outre, l'association prône la préférence nationale en matière de politique économique et demande aux acteurs économiques ainsi que au peuple burkinabé de s'unir derrière la République représentée par le président Roch Kabore.
La revue de presse.
Gilbert Djindjiri est sur toutes les lèvres dans l'affaire Thomas Sankara qui suit son cours devant le tribunal militaire. En effet, les parutions du jour commentent la première sortie du lieutenant et chef de corps adjoint du Centre national d'entraînement commando Sénèque au moment des faits donc. Hier, le gardien de la sécurité du régime de Blaise Compaoré, Gilbert Djindjiri, a plaidé non coupable et c'est ce à quoi il fallait s'attendre selon nos confrères. La revue de presse de ce jour est signée Louis-Louis Houlon.
La silhouette du général Gilbert Djindjiri debout en tenue de combat affichant une certaine sérénité, photos et caricatures à voir à la une des citoyens du journal Aujourd'hui au Faso. La phrase du jour, l'accusé plaide non coupable, titre repris en cœur par le pays, citoyen L'Obs et Aujourd'hui au Faso. Le 15 octobre 87, le général Djindjiri avait une réunion à 9h au Conseil de l'Entente avec des éléments de sécurité, une réunion pour faire baisser les tensions entre les gardes rapprochés des chefs de révolution, rapporte Siroya. Ainsi donc, celui qu'on surnomme Golf n'était au courant de rien, s'exclame l'observateur Palga. Tout comme dans le procès du putsch manqué de septembre 2015, Gilbert Djindjiri est resté dans le déni, remarque le pays, pas du tout surpris. Mon confrère regrette cependant qu'il ne se reproche rien, qu'il n'éprouve pas le besoin de soulager sa conscience et surtout d'espérer le pardon des Burkinabés. Ce devrait donc être à nouveau un rendez-vous manqué avec l'histoire, déplore le pays. Pour tous ceux qui connaissent Djindjiri le taiseux, cette crête de défense ne variera pas d'un iota durant le procès, commente Aujourd'hui au Faso que les juges retournent les questions sous toutes les coutures. Le journal pense que Gilbert Djindjiri s'en tiendra à ça, c'est-à-dire la tension entre les sécurités des chefs qui se regardaient en chien de faïence. Aujourd'hui au Faso qui constate que l'ex-chef d'état-major particulier de la présidence du Faso est en train d'accuser implicitement Hyacinthe Kafando et Blaise Compaoré, d'où cette question du journal. Dans quel pays a-t-on vu des subalternes de l'armée se lever comme ça pour aller tuer le chef de l'État parce qu'ils en voudraient à leur patron? La sécurité, autre sujet d'actualité, et cet ultimatum d'un mois du CFOP au président Kabore. Eddie Kombebo lance un ultimatum d'un mois à Roch, L'Obs et Aujourd'hui au Faso. Si dans un délai d'un mois, rien de sérieux n'est entrepris, poursuit le pays, rapportant les propos du chef de file de l'opposition au sujet de la situation sécuritaire au Burkina qui ne fait que se dégrader. Des problèmes concrets et des mécontentements légitimes évoqués par la région de l'Est à travers le mouvement Ougoulmoufi dans le quotidien qui appelle aujourd'hui à une journée ville morte. Le gouvernement devra, en fonction des urgences, trouver des solutions à même de satisfaire aux besoins des uns et des autres dans leur quête du bien-être et du développement, conclut le journal.
Omega Sport.
Arrivé lundi sous un temps glacial, 6 degrés donc, les étalons se sont tout de suite mis au travail. En dehors des blessés, l'entraîneur national a son groupe au complet. Le point de la première séance avec notre envoyé spécial Ibrahim Bayili.
Avec les arrivées de ce mardi après-midi de Edmond Faisal Tapsouba et de Mohamed Konaté, le groupe étalon est maintenant au complet. Un groupe qui se passera de certains cadres comme Bertrand Isidore Traoré. Le capitaine Issoufou Dayo travaille dur pour être sur pied ce vendredi contre le MENA du Niger.
Tout à fait, oui. Je travaille dur avec Léo, avec le kiné, avec Dr Alain. Ça va, on essaye de vraiment faire tout pour que je sois là pour le match du Niger d'abord, qui est qui est plus important. Et après, pour aller en Algérie en pleine forme pour pouvoir jouer le match à plein là-bas.
Blessé également, le portier titulaire Hervé Kofi Kwaku, qui est annoncé, est incertain. La bataille pour son poste est engagée et le jeune Kylian Nkema, qui retrouve les étalons après 2 ans, le sait très bien.
Je veux faire tout pour aider les pieds, donc quand je dois aider les pieds, je vais faire, oui. C'était 2 ans que j'étais pas ici et je pense que je suis maintenant un mieux gardien. Et donc, je pense que c'est mieux moment pour moi d'être porte de la groupe.
Les étalons seront donc au complet pour les entraînements de ce mercredi après-midi. Une situation qui permettra à l'entraîneur national de composer déjà son 11 de départ de ce vendredi. Ibrahim Bailly qui vous a parlé de Marrakech pour Omega Media.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Comme annoncé en titre, notre invité du jour est l'ancien premier ministre Lucas Dov Tiao. Avec lui, nous revenons sur les accusations du régime Kabore vis-à-vis du régime Compaoré d'être derrière les attaques, des accusations qui s'étaient faites entendre aux premières attaques qu'a connues la capitale Ouagadougou, surtout Lucas Dov Tiao que nous écoutons ici. Parlant de sécurité, justement, comment est-ce que vous êtes senti lorsque, aux premières attaques déjà du côté de la majorité et autres, on entendait certains indexer l'ancien régime? Vous ne vous êtes pas senti indexé, là?
Non, à titre personnel, non, parce que je n'ai...
Mais comment est-ce que vous êtes senti lorsque il y a
ces accusations lancées? Oui, mais bon, évidemment, vous savez, bon, ça c'est difficile d'entendre ce genre de propos. Moi, je me suis dit, bon, il y a d'autres personnes qui connaissent mieux le président Blaise Compaoré que moi. Mais moi, le temps que j'ai vécu avec lui à Abidjan et le temps que j'ai échangé avec lui, je n'ai jamais eu l'impression qu'il ait voulu profiter de ces relations qu'il avait. Et tout ça, enfin, qui était d'ailleurs recommandé par la CEDEAO, le système des Nations Unies, j'étais convaincu, moi en tout cas je le suis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire. Je n'ai aucune preuve de croire qu'il est capable de le faire.
Ceux-là qui affirment que ces groupes qui attaquent le Mali, tant bien que le Burkina, le Niger, des leaders étaient hébergés à Ouagadougou aux frais du contribuable. Et donc, justement, que l'ex-président Blaise Compaoré a soutenu des terroristes à un moment donné. Vous qui étiez Premier ministre à l'époque, qu'avez-vous à répondre ici?
De ce que je sais, Blaise Compaoré a travaillé officiellement à la demande de la CEDEAO, à la demande des Nations Unies. Ce n'était pas des rebelles, ce n'était pas des terroristes. C'était des mouvements rebelles qui avaient la caution de certains pays. Vous les connaissez très bien. Et ce sont ces pays qui ont demandé au président Compaoré de s'impliquer dans la médiation pour régler les problèmes qui étaient au Mali. Il était médiateur officiel par les Nations Unies. Des chanceliers diplomatiques le touchaient lorsque leurs compatriotes avaient des problèmes. C'est ce que moi je vois en tant que journaliste que je constatais. Mais je ne sais pas, je ne vais pas vous dire que, comme le disent certains, Blaise en dessous finançait les terroristes. On peut dire que Blaise a soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire. Je pense que lui-même, deux fois, il a dit ça, il a assumé. La rébellion en Côte d'Ivoire, il a assumé parce qu'il pensait que le nouveau système politique qui était là faisait beaucoup de tort à ses compatriotes. Nous avions 3 ou 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et cette situation a fait qu'il a soutenu les opposants. Il a même soutenu, à un moment donné, Laurent Gbagbo.
Justement.
Mais dire qu'il a financé les terroristes, moi, je n'ai aucune preuve. Mais j'ai dit s'il agit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À l'époque, on ne parlait même pas de terrorisme, on parlait de rébellion du Mali et du Niger. Et le terrorisme n'a pas attendu que Blaise tombe pour commencer à sévir dans ces pays. Maintenant, toute la question est de savoir pourquoi, subitement, on s'est retrouvé être la cible privilégiée.
Vous savez, les gens... Je m'apprête à vous poser cette question.
Non, c'est tellement simple parce qu'aujourd'hui, vous avez vu comment le mouvement terrorisme s'est développé dans le monde. Depuis que, dans les années 2000, l'Afghanistan était devenu le passion du terrorisme international. Ceux qui sont derrière le terrorisme ont des idéologies. Des idéologies que nous ne partageons pas du tout. Pour eux, il faut convertir le monde à un type d'islam, que même nous, heureusement que nous avons un pays où nous avons une communauté musulmane très ouverte, que même je dirais, entre guillemets, si on peut le dire, laïque. Mais ces personnes-là pensent qu'on peut amener un autre islam qui est à mesure de résoudre les problèmes donc des Africains. Et tout ce qui s'est passé après la chute de Kadhafi, évidemment, les armes ont circulé. Et les gens, là où ils avaient des problèmes, ont commencé à écouter les voix de ceux qui prêchaient la violence. C'est pourquoi le terrorisme a commencé dans les parties les plus pauvres de notre pays. Ça, quelque part, vous savez, quand vous avez été un ancien premier ministre, vous devez reconnaître effectivement que nous n'avons pas fait assez pour le Nord. Nous n'avons pas fait assez dans ces régions où nous n'avons pas été persévérants. Donc la pauvreté s'est installée et ça a fait le lit pour ceux-là qui venaient prêcher des idéologies et ou bien qui étaient dans des trafics de tout genre. Parce que ça aussi, en fait, sous le couvert, l'autre aspect, sous le couvert du terrorisme, ce sont des trafics de bandits, ce sont des trafics narcotiques, etc. Alors, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout cela qui s'est mélangé au Burkina, lutte idéologique, religieuse, extrême, extrémisme violent, religieux, et également aussi tout ce qui est comme criminalité transfrontalière, ils ont trouvé un moyen de pouvoir gagner leur vie, parce que je ne suis pas sûr que tout ce que nous supposons partout soit forcément le fait de djihadistes.
Oui, mais justement, vous avez tantôt souligné l'ex-président Compaoré, donc, qui était médiateur, et donc au nom de ce titre-là, avait donc hébergé des chefs de groupes rebelles, aujourd'hui donc, qui sont des chefs de groupes terroristes. Pensez-vous aujourd'hui que si l'ex-président s'implique, il pourrait faire entendre raison à ces derniers pour que son pays puisse retrouver un temps soit peu la paix?
D'abord, en ce qui concerne, bon, les choses ont changé. Comme vous avez dit, les simples rebelles qui n'étaient pas des terroristes à l'époque, certains sont passés, sont devenus terroristes. Donc, ils ne sont plus du tout dans le même état d'esprit où ils étaient, une rébellion où ils cherchaient d'abord l'indépendance, à régler les problèmes. Mais je me dis, quoi qu'il en soit, l'ex-président, comme d'autres anciens présidents, au Nigeria, nous avons le président Olusegun Obasanjo, nous avons le président Jonathan. Mais quand vous avez exercé le pouvoir pendant un certain nombre d'années, malgré tout ce que vous avez fait, s'il y a eu des insuffisances, vous avez toujours des relations, vous avez des réseaux d'information. Si on vous sollicite, c'est votre devoir d'apporter votre contribution pour résoudre les questions. Je crois que le président Compaoré, il a quelquefois, je pense, rédigé des lettres pour se mettre à la disposition du Burkina, pour contribuer à régler les problèmes. Mais c'est pas forcément que celui qui allait résoudre, parce que les problèmes qui se posaient en son temps ne sont plus les mêmes que les problèmes que nous vivons aujourd'hui.
Merci à vous.
Voilà.
Donc,
merci beaucoup.
Je rappelle Luc Adolphe Tiao.
Merci. Voilà.
Voilà l'instant, l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao. C'est avec lui que nous refermons cette édition. Brema Maïga, la technique, Abdelaziz Oulabou pour la retransmission web, à la présentation, Denis Zungrana. Merci pour votre fidélité à l'écoute toujours des programmes de la radio Omega.